Badania europejskie.
Rozumienie da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour d'Europe, bienvenue au Bourget, au nord de Paris, qui une fois tous les deux ans accueille le plus grand salon aéronautique et de l'espace au monde. Avec Airbus, les avions, et Ariane, la fusée, l'Europe brille dans le ciel et tutoie les étoiles. Mais jusqu'à quand? Car à la traditionnelle concurrence américaine et russe, les Européens sont déjà confrontés à celle des Brésiliens et des Canadiens, avant de devoir affronter sous peu les Chinois, les Japonais, voire les Indiens. Si dans les domaines de l'aéronautique et de l'espace, l'Europe parle d'une seule voix, il n'en est pas de même dans celui de la défense, où la concurrence intra-européenne fait rage pour le plus grand bonheur des Américains. Est-ce une fatalité à l'heure où le thème de la défense européenne refait surface dans les propos que tiennent par exemple Angela Merkel ou Emmanuel Macron? Nous avons posé nos micros dans le chalet d'Ariane Group et je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Alain Charmeau.
Bonjour.
Vous êtes le président d'Ariane Group, une toute nouvelle entité, et donc forcément encore peu connue. Déjà, merci de nous accueillir, mais Ariane Group, vraiment deux mots.
Je vous en prie, et bienvenue chez nous. Ariane Group, effectivement, c'est un nouveau nom, une nouvelle image de ce qui s'appelait précédemment Airbus Safran Launchers, puisque nous avons créé un nouveau groupe avec Ariane Espace qui a rejoint notre entité.
Donc, tout le domaine spatial, maintenant, c'est Ariane Group.
Le domaine des lanceurs spatiaux, des lanceurs. Effectivement, pour des applications civiles et militaires. C'est Ariane Group.
Parce qu'il y a aussi les satellites, et les satellites, c'est une autre histoire, c'est pas vous.
C'est pas nous, il y a d'autres sociétés européennes pour les satellites.
Cédric Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de Stelia Aerospace. Ce n'est pas vous faire injure que votre entreprise est peu connue du grand public. On connaît évidemment Airbus, mais pour que les Airbus volent et qu'on puisse les emprunter, eh bien, il faut des grands équipementiers comme vous, je crois que c'est le mot qu'on emploie, qui fabriquaient. Alors, des petits ou des grands morceaux d'Airbus, vous, c'est plutôt des grands.
C'est des grands, voire des très grands morceaux d'Airbus. Effectivement, c'est l'aérospace, c'est peu connu, mais avec des racines extrêmement anciennes. 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 6 600 personnes dans le monde, et on fait des grands morceaux de fuselage d'Airbus et même d'autres avionneurs.
On va y revenir, bien évidemment. Pascal Pincelin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous ne construisez pas d'avions, ni des petits, ni des gros, pas de satellites, pas de fusées, mais par contre, vous êtes très impliqué dans l'observation du monde de l'aéronautique et de l'espace, puisque vous êtes associé chez Deloitte, responsable de la rubrique du secteur aéronautique et spatial. Vous suivez de très très près ce secteur. Il évolue beaucoup?
Absolument, donc on ne fait pas qu'observer, puisqu'on observe, puis ensuite on en tire des conséquences avec nos clients, et on essaie de faire ensemble que l'ensemble de nos compétences, de la stratégie, au système d'information, passant par les problèmes de sécurité, cybersécurité et autres, puissent se mettre au service d'un secteur particulier, et je représente aujourd'hui le secteur aérospace défense.
Et puis à mes côtés, Yann Kochnek, bonjour Yann.
Bonjour.
Le rédacteur en chef d'Air et Cosmos, la revue qui fait autorité dans le domaine de l'aéronautique et de l'espace en France, et même au-delà. Merci d'être avec nous. Alors, Yann, il y a plusieurs façons d'aborder le Bourget. Il y a celle des passionnés de l'aéronautique qui lèvent les yeux au ciel à chaque démonstration en vol du moindre aéronef. Et puis celle des hommes d'affaires venus signer des contrats. On en signe beaucoup ici dans ces fameux chalets où les exposants accueillent leurs clients. Et pour bien des observateurs, le Bourget se limite parfois à un match que se livrent les deux grands avionneurs mondiaux que sont Boeing et Airbus. Et à la fin, il y a un résultat et forcément un gagnant et un perdant, même s'il faut tout relativiser. Qui est-il cette année alors que le salon est en train de fermer ses portes? Boeing, Airbus?
Moi, je crois qu'au terme du match, je dirais que Boeing gagne à la fois en nombre d'avions vendus et en nombre de valeurs. Alors, c'est vrai que ça ne s'était pas vu depuis pas mal d'années, que Boeing occupe ainsi le terrain sur les terres d'Airbus. Mais bon, les deux avionneurs adorent se chatouiller mutuellement et adorent les symboles. Donc c'est un petit clin d'œil de Boeing à Airbus en disant que nous aussi, on est capable de vendre des avions.
Sur le terrain même d'Airbus. D'Airbus qui a évidemment son charme quand on est un vendeur de chez Boeing.
Oui, puis en plus, en même temps, bon, tout le monde sait que le Bourget est quand même le premier salon aérospatial mondial et que c'est une formidable caisse de résonance médiatique. Je crois qu'il y a 4000 journalistes qui couvrent l'événement, que ce soit de la presse écrite ou télé ou radio. Donc bien sûr, il est clair que les communicants jouent leur rôle là-dedans pour mettre en scène toutes ces annonces de commandes.
Alors les avions les plus connus du grand public ne sont pas forcément ceux qui se vendent le plus. Je pense par exemple à l'A380, le super jumbo d'Airbus. Il est plébiscité par les passagers. Il ne l'est pas par les compagnies aériennes. Il se vend difficilement. Il y a même un moment qu'il ne se vend plus. Pourquoi ?
C'est une question assez difficile parce que il y a des avions dont la vie commerciale a très mal commencé et puis qui finalement se sont révélés être d'excellents produits sur le long terme. D'autres à qui on annonçait un avenir brillant et qui se retrouvent non pas forcément sur le tapis mais confrontés à des évolutions de marché. Il ne faut pas oublier qu'un avion, l'A380, c'est conçu dans les années 90. On a commencé à avoir de premiers dessins vers le milieu des années 90. Et c'était le pari à la fois à l'époque d'être capable pour Airbus d'offrir une famille d'avions complète face à Boeing et d'anticiper la croissance du trafic aérien. C'est vrai que le trafic aérien a cru, donc là l'analyse était bonne et même on voit bien que les commandes d'avions, et c'est encore impressionnant cette année, continue à déjouer les pronostics des pessimistes, hein, puisqu'on a plus de 1000 avions vendus en 3 jours pour plus de 100 milliards de dollars. Bien sûr, ce n'est pas que des commandes fermes, mais ce sont aussi des commandes qui seront concrétisées.
Tout ça, ils voleront.
Ils voleront, et ces commandes seront concrétisées dans les semaines ou les mois qui viennent. Donc on voit bien que la dynamique est toujours là, qu'il y a des gens dans le monde entier, de plus en plus de gens veulent prendre l'avion pour aller découvrir de nouveaux horizons ou alors simplement pour nouer des affaires, en réaliser. Donc la croissance du trafic double tous les 15 ans et une fois de plus, on voit bien que à l'analyse des commandes annoncées au Salon du Bourget, il va continuer à doubler. C'est presque une mécanique, quelles que soient les crises qui peuvent intervenir, quels que soient les à-coups, ce trafic double tous les 15 ans.
C'est-à-dire, Pascal Passemain, que l'A380 qui a quelques difficultés aujourd'hui, il n'est pas mort pour autant. D'ailleurs, Airbus est en train de lancer, non pas une nouvelle version, mais en automobile, on dirait un restyling.
Non, mais je crois lifting. Que l'A380, c'est un très très bon avion. Comme l'a dit Yann, il a été conçu il y a une dizaine d'années. C'est un avion qui est très spécialisé parce que c'est un avion de très forte capacité qui est fait pour transporter des passagers d'un hub à un autre. C'est-à-dire, les hubs, ce sont ces plateformes de correspondance, les très grands aéroports qui concentrent le trafic régional et qui permettent les liaisons internationales. Il se trouve qu'il y a une pause dans les commandes. Je crois que il est public de dire que l'essentiel des commandes de ces dernières années ont été le fait des compagnies du Golfe qui justement constituaient ces flottes adaptées à cette stratégie de hub en positionnant les Émirats comme un grand hub de correspondance entre l'Asie, l'Europe et les États-Unis. Il se trouve que non seulement les compagnies du Golfe commencent à avoir des flottes conséquences, mais elles commencent aussi à avoir des difficultés parce que à force d'investir dans un dumping et une concurrence qu'on peut qualifier quand même de déloyale par rapport à l'ensemble du reste du marché et d'investir des sommes énormes dans la construction à la fois des infrastructures et des flops, ils commencent à avoir des difficultés. Donc il y a moins de commandes des compagnies du Golfe sur l'A380, mais je pense que les fondamentaux du marché, Yann l'a rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire que l'émergence des classes moyennes en Chine, en Inde, en Asie, font que ce marché du transport aérien, c'est un marché merveilleux. C'est-à-dire qu'il y a peu d'autres secteurs où on est sûr que dans les 20-30 prochaines années, il y aura une croissance régulière moyenne de 4 à 6%. Et donc la question, c'est pas est-ce qu'il y aura de la croissance et qui la saisira. À partir de là, on sait que le doublement des passagers tous les 10 ans, ça ne correspond pas à une capacité équivalente d'extension des aéroports. Donc il faudra densifier le trafic, alors avec plus d'avions qui sont plus efficaces dans les procédures de décollage et d'atterrissage. Mais je pense qu'un avion très gros porteur comme le 380 aura sa place dans cette gestion finalement de l'optimisation du trafic.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'Airbus a peut-être eu raison un peu trop tôt.
Il a eu raison puisqu'il en a vendu. Et puis après, ce sont quand même des cycles très longs. Hein, donc, et encore une fois, les fondamentaux sont là.
Alors Cédric Gauthier, pour Stelia Aerospace, j'ai bien expliqué que vous ne fabriquiez pas les avions, mais vous en fabriquiez des gros morceaux. Et vous avez fait une spécialité de fabriquer les nez d'Airbus notamment. Est-ce que vous fabriquez les nez d'A380 ?
Oui, exactement. On fabrique les nez d'A380 et de tous les Airbus actuellement sur le marché.
Alors c'est pas votre principale activité en ce moment, l'A380, plutôt les nez d'A380 au ralenti.
Les cadences baissent, mais on a par ailleurs les cadences de la famille 320, du 350, qui augmentent dans des proportions gigantesques, et ceci compensant largement cela.
Alors le nez, pour nos éditeurs, il faut expliquer que c'est pas vraiment, c'est pas le petit truc qui dépasse de l'avion, c'est le premier tronçon de l'avion, c'est déjà volumineux.
C'est tout la partie avant du fuselage qui va du cockpit jusqu'aux premières places passagers.
Souvent donc, les premières d'ailleurs.
Les premières, les business, ça dépend si l'avion est biclasse ou triclasse.
Et vous fabriquez d'autres tronçons ?
Oui, on fabrique sur la famille 320, on fabrique en fait tout le tronçon avant de l'appareil jusqu'à la voilure, donc c'est vraiment la moitié du fuselage. On fabrique aussi d'autres parties très complexes comme les cases de train, les structures qui supportent les efforts d'atterrissage. Donc vous pouvez imaginer donc les conditions de charge de ces structures. On fabrique pour Bombardier tout le fuselage.
Bombardier, l'avionneur canadien,
tout le fuselage de l'avion Global 7000. Donc on travaille dans beaucoup de domaines. Et également les voilures aussi de l'avion ATR sont donc conçues et fabriquées par nous.
Vous fabriquez en gros des éléments, des structures pour presque tout le monde, sauf Boeing a priori.
Alors Boeing, pour l'instant l'activité est très faible, on a moins de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires avec eux, donc c'est à la fois un bon début, mais effectivement c'est beaucoup moins que ce que l'on peut avoir avec nos clients historiques Airbus.
Alors à chaque fois qu'il y a un Airbus, il y a un Boeing en face, hein, Yann Kochenek.
C'est,
quand il y a la 320, il y a le 737. Quand Boeing lance le 787, voilà. Et cette année, le match, il était autour. Là, on est dans les spécialistes entre la 321 Neo face au 737 Max 10. Alors, en deux mots.
En deux mots, il suffit de regarder, d'analyser les ventes de la famille A320 Neo pour s'apercevoir que la 321 Neo représente près de 30% des ventes totales de la famille. Et que ce sont ces ventes de la 320neo qui font le différentiel, l'avance d'Airbus sur Boeing. Donc il est clair que Boeing ne pouvait pas laisser la situation comme ça continuer à s'envenimer pour eux. Donc il leur fallait lancer un produit à peu près équivalent. D'où le lancement du Max 10.
Ils ont mis un point d'honneur à le lancer ici au Bourget.
Oui, donc ça, c'est ce que je disais en introduction. Ça, ils ont décidé politiquement de faire cette annonce ici à Paris. Pourquoi ? Parce que nous sommes bien en ce moment dans le premier salon aéronautique mondial, donc ça confirme bien le fait de décider d'annoncer un nouveau modèle d'avion montre bien l'importance de la place de Paris, de la place de Bourget pour l'industrie aéronautique mondiale, et puis en même temps c'est un moyen de venir chatouiller l'adversaire sur ses terres.
Pascal Passman, les grandes tendances de l'aéronautique, vous qui les analysez dans le détail demain, les grandes évolutions de l'aéronautique. On va parler de l'espace dans un instant.
Alors les grandes tendances, enfin, on les a rappelées, hein, c'est-à-dire un marché très positivement croissant sur 20 ans, 34 000 avions à construire dans les 20 prochaines années pour faire face à la demande de transport. C'est énorme, avec un enjeu de une augmentation régulière des cadences pour que les constructeurs comme Airbus ou Boeing, dont c'est l'obsession d'ailleurs, puissent livrer à bonne date et en qualité tous ces avions pour satisfaire la demande. C'est ça qui va occuper l'industrie et en particulier les constructeurs pour les 20 prochaines années.
Cédric Gauthier, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Oui, parce qu'on se focalise toujours sur le match, parce que c'est très symbolique entre Airbus et Boeing. Ouais. Mais il faut remarquer une chose, depuis des années et des années, l'un et l'autre avionneur engrangent plus de commandes que ce qu'ils arrivent à produire comme nombre d'avions. Ce qui fait que le carnet de commandes est venu inflater à des niveaux considérables. Ouais. Entre Airbus et Boeing, on est aux environs de 10 000 avions donc à produire. C'est absolument considérable. Donc en fait, la première priorité des avionneurs à ce jour, c'est de livrer, de produire.
Et vous derrière, vous.
Et donc, évidemment, pour tous les équipementiers français et internationaux, c'est notre challenge à ce jour de pouvoir livrer, de tenir les cadences qui sont très très élevées sur notamment les best-sellers d'Airbus et de Boeing.
Mais votre problème, c'est Airbus qui vous appelle, qui dit bon, voilà, tu devais me livrer et tu ne me livres pas, on a des problèmes.
Nous livrons. Ouais. nous livrons. Non, mais on a des challenges. Actuellement, on livre, il faut savoir qu'on livre près de 60 fuselages de 320 par mois. Et on a installé dans notre usine du nord de Paris, en Picardie, des lignes mobiles de production, comme dans l'automobile. Et on voit avancer de manière continue à une vitesse de 2,5 cm par minute, donc les fuselages. Il y en a un qui sort toutes les 4,3 heures. Donc on est vraiment dans des challenges industriels importants pour que nos clients avionneurs puissent effectivement livrer tout ce qu'ils ont engrangé comme commandes les années passées.
On sent bien qu'il y a une évolution dans la fabrication, et on va parler un petit mot d'espace. Là encore, on va se rendre compte qu'il y a une évolution dans la fabrication. Alors Alain Charmeau, je n'ai pas vocation à être désagréable, surtout lorsque vous nous accueillez, mais au Bourget, les avions raflent souvent la vedette aux fusées et aux satellites, mais pas cette année. Grâce à Thomas Pesquet, en passe de devenir le plus emblématique des spationautes français, et grâce à Ariane 6, une nouvelle fusée, ce n'est pas tous les ans qu'il y a une nouvelle fusée en mesure d'être présentée. D'ailleurs, elle n'existe pas encore vraiment, hein, Ariane 6. Elle existe davantage en maquette qu'en réel pour l'instant.
Absolument, nous sommes en phase de développement et nous visons un premier vol en 2020. Alors pas pendant le salon du Bourget, parce qu'on a du mal à faire décoller nos fusées depuis la région parisienne, mais depuis Kourou.
Depuis Kourou, qui est évidemment la base de lancement emblématique européenne, même si on est sur le continent américain. Alors la différence entre Ariane 5 et Ariane 6 ?
Bon, tout d'abord, Ariane 5 n'est pas terminée, puisque j'ai encore signé ce matin un petit contrat avec l'Agence spatiale européenne pour améliorer les performances d'Ariane 5. Et nous allons continuer d'améliorer la satisfaction des clients avec une Ariane 5 de plus en plus performante. Nous avons battu lors du dernier vol le record d'emport de charge utile que possédait déjà Ariane 5 en orbite de transfert géostationnaire. Et donc ce lanceur continue sa belle vie de leader mondial sur le marché commercial. Ariane 6, nous l'avons lancé pour pouvoir, à partir de 2020, effectivement avoir un lanceur plus performant et surtout un lanceur mieux industrialisé. Nous en parlions tout de suite pour les avions, et donc un lanceur avec un coût plus compétitif.
Est-ce que je simplifie un peu les choses, mais jusqu'à Ariane 5, on pouvait dire que le challenge, l'objectif, c'était de lancer et de placer en orbite les satellites, et le coût, c'était pas très très important. Bon, vous allez me reprendre, et qu'aujourd'hui avec Ariane 6, avec la concurrence, et on va en parler, qui se met en place et qui se développe, il faut être plus performant. C'est-à-dire qu'il faut toujours être performant dans le lancement, mais il faut être de plus en plus compétitif. Et que c'était une dimension qui était peut-être un peu plus secondaire.
Oui, tout à fait. Ariane 5 a été conçue dans les années 80, à l'époque où l'Europe souhaitait encore faire du vol habité. Ariane 5 a été conçue et développée, et les outillages de production que nous utilisons encore aujourd'hui ont été conçus pour faire du vol habité. Donc des critères de fiabilité, bien sûr, extrêmement importants, des critères de performance extrêmement importants. Et en fait, le marché est en train d'évoluer. Nous avons une explosion des applications spatiales pour les citoyens, et l'Europe, la Commission européenne investit pour développer les applications spatiales au bénéfice des citoyens européens, qui vont nécessiter de plus en plus de lanceurs, de plus en plus de satellites, mais sur un marché qui est devenu un marché commercial, un marché donc concurrentiel.
Alors, pourquoi une petite idée ? Lancer, plus exactement, mettre en orbite basse, 400 km, hein, je ne dis pas de bêtises, 1 kilo de satellites en orbite basse. Le coût avec Ariane 5, le coût avec Ariane 6.
On lance les satellites beaucoup plus haut que ça, hein, puisque le satellite, notamment pour les applications de télécommunication, sont à 36 000 km d'altitude au-dessus de la surface terrestre. Et nous allons diviser à peu près par deux entre le prix au kilo aujourd'hui délivré par Ariane 5 et le prix au kilo qui sera délivré par Ariane 6.
Et au kilo, pour une petite idée, quoi. Un kilo de satellites à 36 000 km.
Quelques dizaines de kilos euros par kilo.
Alors quelques dizaines de kilos euros, c'est-à-dire quelques dizaines de milliers d'euros.
Voilà,
quelques dizaines de milliers d'euros. Donc
voilà,
on n'est pas loin de la centaine de milliers d'euros au kilo.
Non, on est en dessous.
Un petit peu en dessous. Voilà. Alors justement, comment on s'y prend pour passer de diminuer le prix par deux ? C'est très rare des industries qui arrivent à diminuer le prix par deux. Par exemple, si on prend les Airbus, entre l'A320 et l'A321neo, on a une baisse de l'ordre de 15%. Vous faites 50%, c'est pas mal. Hein, on s'y prend comment ?
Il faut regarder le point de départ. Comme je le disais, le point de départ, c'est Ariane 5. Le point de départ de la comparaison, Ariane 5 qui est un lanceur qui a été conçu il y a une trentaine d'années. Une trentaine d'années, on n'avait pas l'occasion d'avoir des emails, par exemple. Je ne suis pas sûr que ça soit un gain de compétitivité, mais en tout cas, nous avons des outils de développement, des outils de fabrication qui sont sans commune mesure avec ceux que nous avions il y a 30 ans. Mais surtout, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, nous demandons à nos ingénieurs de concevoir le produit, pas uniquement pour sa performance et pour la beauté technologique, mais de concevoir le produit pour un prix compétitif. Donc ça change complètement l'état d'esprit de nos équipes, de nos ingénieurs, ça change l'approche. Et évidemment, nous trouvons des solutions pour baisser les prix, effectivement, dans un coefficient 2. Et nous allons y arriver, je peux vous le garantir.
Comment évolue l'industrie aéronautique et spatiale européenne ? Qui sont les nouveaux concurrents européens ? On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Le temps de prendre connaissance des dernières nouvelles de la planète. A tout de suite, on se retrouve dans un instant, dans 3 minutes, très exactement, au Bourget.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europy.
Stawrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Si vous nous rejoignez, nous sommes au Bourget, au nord de Paris, qui une fois tous les deux ans accueille le plus grand salon aéronautique de l'espace au monde. Avec Airbus, les avions et Ariane la fusée, l'Europe brille dans le ciel et tutoie les étoiles. Mais jusqu'à quand? Car à la traditionnelle concurrence américaine et russe, les Européens sont déjà confrontés à celle des Brésiliens et des Canadiens, avant de devoir affronter sous peu les Chinois, les Japonais, voire les Indiens. Si dans les domaines de l'aéronautique et de l'espace, l'Europe parle d'une seule voix, il n'en est pas de même dans celui de la défense, où la concurrence intra européenne fait rage pour le plus grand bonheur des Américains. Est-ce une fatalité à l'heure où le thème de la défense européenne refait surface dans les propos que tiennent par exemple Angela Merkel ou Emmanuel Macron? Nous allons voir ça avec nos invités. Je vous les représente. Ils nous ont rejoints dans le chalet d'Ariane Group. Alain Charmeau, il est le président d'Ariane Group. Cédric Gauthier, président de Stelia Aerospace. Pascal Pincemin, associé chez Deloitte, donc responsable du secteur aéronautique et espace. Et Yann Kochnek, rédacteur de la revue de l'hebdomadaire Air et Cosmos. Alors, Alain Charmont, on évoquait une petite révolution, je crois qu'on peut employer le mot de révolution, entre Ariane 5 et Ariane 6, dans une approche Ariane, une industrielle tout à fait nouvelle avec Ariane 6. Il y a déjà des clients, en fait, pour Ariane 6. Vous avez déjà signé des contrats pour satelliser?
Non, pas encore signé de contrat, mais comme nous avons conçu ce lanceur Ariane 6 avec nos clients, ce qui est aussi quelque chose d'assez nouveau, en tout cas pour le monde des lanceurs, évidemment, nous avons beaucoup de discussions avec des clients, aussi bien des clients institutionnels, c'est-à-dire du gouvernement ou des agences gouvernementales, qu'avec des clients commerciaux.
Discussion,
mais pas de contrat cette semaine au Bourget.
D'accord. Pour un premier vol prévu
2020.
Donc c'est demain quand même.
Alors il nous reste 3 ans quand même.
Donc il va falloir signer quand même très rapidement.
Nous allons signer dans les mois qui viennent, peut-être les semaines qui viennent, effectivement les premiers contrats d'Ariane 6.
Alors pendant très longtemps, le monde spatial, c'était les Américains, les Russes, les Européens, grâce notamment aux Français qui ont été leaders dans le domaine spatial. Et puis on voit poindre des concurrents de plus en plus nombreux, de plus en plus sérieux. Je pense évidemment aux Chinois, mais peut-être aussi les Indiens, qui vont être les concurrents d'Ariane Group dans les années à venir. Je laisse de côté les Russes et les Américains qui le sont déjà.
Alors, je vous remercie d'abord de souligner que l'Europe est encore dans le premier cercle, effectivement, de ces enjeux commerciaux.
Et va-t-elle
mondiaux,
le rester?
Et elle va le rester. Elle va le rester parce que nous sommes en train de développer Ariane 6 et également un petit lanceur Vega C. L'Europe aura une gamme de nouveaux lanceurs qui lui permettra d'être tout à fait compétitive. Sur la compétition, je voudrais signaler qu'on a quand même deux types de marchés. Nous avons des types de marchés, des agences gouvernementales, des marchés institutionnels qui sont des marchés captifs. Et là, il y a très peu de concurrence. Il n'y a que des lanceurs américains qui lancent des satellites gouvernementaux américains. Les Russes, les Chinois, évidemment, c'est la même chose. L'Europe est un petit peu plus ouverte à la concurrence, ce qui n'est pas tout à fait favorable pour son industrie. Donc ça, c'est un premier type de marché sur lequel il n'y a pas de concurrence. Notre difficulté, c'est que ce marché est beaucoup plus important aux États-Unis, en Russie ou en Chine qu'il ne l'est en Europe. Donc ça, c'est un facteur défavorable pour l'industrie européenne.
Puis ensuite, il y a le marché. Ce que je suis en train de dire là, ça veut dire que par exemple, les Allemands, ils ont choisi de, pour certains de leurs satellites, de prendre un lanceur américain.
Oui, ou en tout cas d'ouvrir la compétition.
D'ouvrir la compétition, voilà.
Effectivement, sur le marché mondial, ce que les Américains, pour des applications de défense, mais également des applications civiles de la NASA ou de la NOAA, ne se permettent pas de faire. Et bien évidemment, c'est totalement impensable en Russie ou en Chine. Donc ça, c'est la première catégorie qu'il faut effectivement bien comprendre, c'est que nos concurrents bénéficient de marchés nationaux qui sont très très significatifs, très importants, et qui leur donnent donc un avantage évidemment très important par rapport à l'industrie européenne. Bon, néanmoins, l'industrie européenne est présente sur le marché commercial. On parle des opérateurs de télécommunications, mais pas uniquement, mais enfin principalement les opérateurs de télécommunications. L'Europe est encore leader grâce à Ariane 5 et au petit lanceur Vega qui est en train de faire son trou sur ce marché commercial.
Un petit point de technique. Il y a, semblait-il, les Américains mettre au point un système de réutilisation de leurs fusées. C'est en tout cas très spectaculaire. Ils envoient une fusée dans le ciel, dans l'espace, et elle retombe pile sur sa plateforme de lancement. Est-ce que c'est pour vous une technique de demain? La technique de demain, il ne semble pas que les Européens soient très en pointe là-dessus.
Cette technologie, pour pouvoir réutiliser un lanceur, il faut déjà avoir un nombre minimum de lancements à faire assez significatif. Sinon, vous pouvez pas réutiliser si vous n'avez pas tiré déjà les lanceurs neufs. Et c'est là où l'importance du marché intérieur américain est absolument fondamentale, puisque à partir du moment où il y a un marché captif important, vous pouvez vous permettre ensuite de réutiliser les lanceurs que vous avez déjà utilisés pour le marché captif. L'Europe n'a pas ce marché intérieur captif. Nous avons au maximum, c'est l'objectif que nous nous fixons, 5 lancements Ariane 6 pour les gouvernements européens par an. Donc à partir de là, il est assez difficile de dire que la réutilisation va être la solution miracle pour être compétitif.
Demain, le grand concurrent d'Ariane Group et donc de la fusée Ariane, ce sera surtout les Chinois ?
Pas forcément, parce que les Chinois ont une difficulté à accéder au marché commercial pour des raisons de protection des technologies sensibles américaines qui existent à bord des satellites. Ça restera avant tout les Russes et les Américains, avec probablement les Indiens et les Japonais qui vont apparaître sur le marché commercial à très court terme.
Alors ce qui est vrai pour les fusées l'est aussi pour les avions. Dans les allées du salon, des constructeurs brésiliens ou canadiens qui ont pignon sur rue, mais aussi des Russes qui reviennent sur le devant de la scène, des Chinois qui affichent de grandes ambitions, sans parler des Japonais, des Coréens, voire des Indiens. Yann Kochnek, quelles sont les ambitions de ces constructeurs ?
Il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire ou le concurrent. Le Chinois n'est pas là, le Russe non plus, mais ils seront là dans 2 ans.
Oui.
C'était un peu tôt pour ces deux avions qui sont en début de programme d'essai en vol de venir cette année. Mais il est clair qu'ils seront là dans deux ans.
Ce sont des avions à peu près d'une capacité 120, 150
places. Oui, ils attaquent clairement l'Airbus A320
et le 737 de Boeing. Hein.
Tout à fait.
Et une montée en gamme.
Tout à fait. Ils se sont fait les dents sur un avion, sur des avions régionaux, donc le Sukhoi Superjet pour les Russes et l'ARJ-21 pour les Chinois. L'ARJ-21 vole difficilement, le Superjet vole bien, mais se vend pas très bien. Maintenant, il passe à la deuxième étape. Il est clair que, comme les autres, ils veulent se faire du pognon.
Mais parlons de la Chine. La Chine sera le pays qui rompra le duopole Boeing-Airbus d'ici une dizaine, quinzaine d'années. Ils le feront d'abord sur ce segment du monocouloir, moyen courrier, court courrier. Pourquoi ? Parce que ils ont eu, à l'évidence, compte tenu de la profondeur et la largeur de leur marché intérieur, le besoin de produire pour leurs propres besoins d'abord un avion de transport régional en fait qui servira le marché chinois. Évidemment, ils espèrent le vendre à l'export. Après, vous avez vu qu'ils se sont récemment alliés aux Russes dans une joint venture autour du C-929 qui est plutôt le concurrent de la 350 ou du Boeing 787. Là, on est sur du long courrier. Là, je pense que c'est raisonnablement beaucoup plus loin en horizon.
Après-demain.
C'est après-demain. Oui, donc, mais en revanche, sur le segment du moyen courrier, je pense que les Chinois auront leur mot à dire.
C'est rigolo. Quand on est le président de Stelia Aerospace, j'imagine qu'on suit ça avec beaucoup d'intérêt. Parce que si on fait des nez d'Airbus, on peut peut-être aussi faire des nez de C-919, voire de C-929 le jour où il arrivera en production.
En tant qu'équipementier, de toute façon, se doit d'être présent auprès de tous les clients potentiels. Donc actuellement, c'est ce qu'on fait avec Bombardier, donc l'avionneur canadien, avec succès. On a déjà, comme je le disais, même si pour l'instant c'est modeste, mais c'est en croissance, donc des activités avec Boeing, même avec Embraer. Donc c'est de toute façon, et c'est l'objet du salon de Bourget justement, de pousser les contacts, de pousser les feux pour...
Donc, vous avez eu normalement un contact avec un dirigeant chinois, un dirigeant russe?
On travaille actuellement principalement avec les sociétés nord-américaines. Américaines qui sont installées sur le marché et ce sont nos cibles privilégiées et donc on travaille plutôt vers l'ouest avec des constructeurs installés.
Alors vous l'avez dit, 6000 personnes, Stelia Aerospace qui est une très grande entreprise répartie sur les 4 continents. En Asie, vous avez déjà un bureau d'observation, d'études, de représentation? Alors, en Chine
ou... En fait, on fait de l'aérostructure mais on fait aussi des sièges passagers. Donc de first et business class et historiquement les compagnies asiatiques sont nos premiers clients dans ce domaine-là. Donc on travaille avec les plus prestigieuses compagnies aériennes du monde, Singapore Airlines, Thai Airways, Asiana, la compagnie coréenne, etc. Donc nous avons des bureaux commerciaux, nous avons des bureaux de support client, parce qu'il faut aussi supporter le client 24-24, 7 jours par semaine. Par contre, en termes d'activité industrielle, on est sur 3 continents. L'Europe, évidemment, nos racines, l'Afrique du Nord et l'Amérique du Nord.
Alors, l'Afrique du Nord, on parle de délocalisation. Ce que vous faisiez à Méaud, vous le faites, ce que vous pourriez faire à Méaud en Picardie, vous le faites à Casablanca ou en Tunisie ?
Absolument pas, absolument pas. On utilise un autre terme qui est fondamentalement différent, c'est la colocalisation. L'aéronautique a ceci de fantastique, ce sont des produits très sophistiqués, contrairement par exemple à la fabrication de t-shirts qui peuvent être délocalisés complètement. Au niveau de l'industrie aéronautique, on a une partie des technologies qui sont très sophistiquées, qui sont maîtrisées sur nos sites nationaux et on y tient absolument. À l'autre bout de la chaîne de valeur, on a des activités basiques et si on les gardait en interne sur nos sites nationaux, on perdrait en compétitivité sans ajouter de la vraie valeur donc à nos produits. Donc nos produits, on les coupe en deux. On garde la partie très sophistiquée sur nos sites nationaux et on envoie dans nos sites donc d'Afrique du Nord l'activité plus basique. Et c'est la combinaison des deux qui fait qu'on est à la fois performant et compétitif.
Yann Kochnek, les Européens qui ont évidemment envie de vendre beaucoup dans le monde, parce que l'aéronautique est une approche par définition mondiale, ont opéré beaucoup de transferts de technologies, voire des installations d'usines de montage, par exemple en Chine. Il existe une usine de montage en Chine d'Airbus A320. Est-ce que c'est se tirer une balle dans le pied ? Je poserai la même question à Pascal Pincemin.
Non, si vous êtes capable, si vous voulez, de garder 20 ans d'avance en termes de recherche et développement et de nouvelles technologies. Parce que, bon, donner, entre guillemets, ou aider à la mise en place d'une ligne d'assemblage A320 CO à Tianjin en Chine, ce n'est pas donner un avantage forcément concurrentiel à l'industrie aéronautique chinoise. Surtout si, dans le même temps, vos bureaux d'études travaillent sur la famille de moyens courriers qui remplacera les A320 CO et les A320 NEO dans 20 ans.
Pascal Pincemin, vous êtes d'accord avec Yann Kochnek ?
D'accord avec Yann Kochnek sur le fait que, de toute façon, ce qui compte, c'est de garder l'avance. En revanche, c'est vrai qu'on ne peut plus vendre aujourd'hui à l'international, des avions en particulier, à des pays comme la Chine ou d'autres, sans avoir un minimum de transfert de technologie, puisque les pays demandent pour signer les contrats qu'il y a un minimum de production sur place. Quand vous regardez le C919, il est quand même très, très proche d'un A320. Donc le fait qu'on ait fabriqué des A320 en Chine n'est pas complètement indépendant du fait qu'ils aient pu développer cette technologie. Mais ça, c'est la vie, je dirais, c'est l'économie des affaires globales, en fait. Et encore une fois, Airbus et Boeing ont une telle avance et auront une telle avance sur le plan de la recherche, du développement, de l'innovation qu'il sera très dur de les rattraper avant une bonne dizaine, quinzaine d'années. Quoi,
et on peut rappeler que les moteurs qu'on va utiliser, ce C919, sont les mêmes moteurs que...
C'est le LEAP
qui utilise Safran, donc Safran, CFM, c'est-à-dire 50% Safran, 50% oui. GE, General Electric, franco-américain. Donc, c'est le même qui équipe les A320 NEO et les 737 MAX. Je parle sous le contrôle de Yann Kochnek.
Tout à fait. Ben, on ne change pas une équipe qui gagne, hein, comme dirait je ne sais plus qui. Non, mais c'est clair que l'équation gagnante d'Airbus, c'est d'avoir choisi une double motorisation dès le début du programme. Donc avec la 320, alors c'était CFM, puis après le consortium IAE, ils ont poursuivi sa stratégie gagnante avec cette double politique de motorisation, c'est-à-dire CFM d'un côté et Pratt & Whitney. Et pour CFM, eh bien, l'équation est finalement la même. Ils sont sur les deux programmes de moyens courriers. Ils sont en motorisation exclusive sur la famille 737 et ils sont un des motoristes des familles A320.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe est au Bourget à l'occasion du plus grand salon aéronautique et de l'espace au monde. Nous sommes avec Alain Charmeau, président d'Ariane Group, avec Cédric Gauthier, président de Stelia Aerospace, avec Pascal Pincemin, responsable du secteur aéronautique et défense chez Deloitte, et avec Yann Kochnek, le rédacteur en chef d'Air et Cosmos. Alors, dans le domaine de l'aéronautique civile ou de l'espace, les Européens parlent d'une seule voix. Airbus, ATR, qu'on n'a pas signalé, qui est paru avec des avions de transport régionaux franco-italiens, et évidemment Ariane. Il n'en est pas de même dans le domaine militaire, où par exemple au niveau des avions de combat, le Rafale est en concurrence avec l'Eurofighter, voire le Gripen le suédois, ce qui permet aux Américains de vendre des F-16 ou encore des F-35, le F-35 qui, vole pour la première fois au Bourget. Alors, pourquoi ce qui fonctionne dans le domaine civil ne marche pas dans le domaine militaire ? Qui veut rebondir ? Yann Kochnek. Pascal Pincemin, voilà.
Non, déjà, enfin, c'est une question assez sensible. C'est-à-dire que les États-Unis sont un marché unifié, avec la puissance qu'on connaît. Ils construisent un avion de chasse. Des avions de chasse, mais ils ont un produit qui est le F-35. En Europe, on se fait concurrence à nous-mêmes en ayant deux, voire trois. Donc, il y a déjà là un élément de réponse à la question.
Mais on le fait pas dans le domaine des lanceurs, des fusées, on le fait pas dans le domaine des avions civils. Pourquoi on le fait dans le militaire ?
Peut-être parce que, justement, il n'y a pas vraiment d'Europe de la défense, alors que les États-Unis ont une défense américaine.
Oui, mais c'est aussi l'héritage du passé. C'est-à-dire que les besoins des armées étaient différents à l'époque. L'Allemagne et la Grande-Bretagne avaient besoin d'un intercepteur dans le cadre d'un dispositif commun au sein de l'OTAN, donc ça a donné l'Eurofighter, et la France avait cette particularité à l'époque d'être hors OTAN et de porter la dissuasion nucléaire. Donc il lui fallait concevoir un avion polyvalent. Voilà, le contexte a changé, la France a réintégré l'OTAN et maintenant il s'agit de partir, à la limite je dirais que le F-35 c'est presque déjà le passé. Il faut que l'Europe de la défense se construise autour des futurs systèmes de combat aérien qui vont associer avions pilotés et drones. Et donc oui, évitons à ce moment-là, nous avons un groupe franco-allemand qui sait faire des satellites, qui sait faire des avions commerciaux, qui sait faire des lanceurs, qui sait faire des hélicoptères, et on a une entreprise française qui sait faire des avions de combat. Donc privilégions les besoins opérationnels des armées, que les pays concernés soient en mesure, pour une fois, de définir un besoin commun, et à partir de là, bâtissons un système de combat aérien en privilégiant le savoir-faire. Parce que le savoir-faire, en termes d'avions de combat, il est clair, il est chez Dassault Aviation.
Quel est le regard du président d'Ariane Group, qui a justement fédéré toutes les entités spatiales européennes, sur le secteur de la défense, où pour le moins on est éparpillé, comme vient de l'expliquer Yann Kochnek d'Air et Cosmos?
Une petite nuance toutefois, parce que dans le domaine des lanceurs, nous n'avons pas le Royaume-Uni. Donc il y a effectivement un grand programme de coopération.
Donc c'est comme d'habitude, c'est la faute aux Anglais, hein, c'est comme d'habitude.
Ils ont pris leurs responsabilités, ils ont leur stratégie qui leur est propre, effectivement, comme ça a été évoqué, alors que effectivement les autres pays européens se sont fédérés autour du programme Ariane. Bon, il y a aussi quand même des coopérations dans le domaine de l'armement en dehors des avions de combat, comme sur les systèmes de missiles, avec une société comme MBDA qui fédère quand même plusieurs activités dans plusieurs pays en Europe. Donc l'Europe, effectivement, pour les raisons qui ont été évoquées, historiques, liées à la position de la France en dehors de l'OTAN pendant de nombreuses années, est amenée à faire un certain nombre de choix. Dans d'autres systèmes de défense, il y a des coopérations européennes qui marchent et qui sont très efficaces. Donc il y a peut-être plusieurs modèles en Europe qui existent entre des activités civiles, comme les lanceurs, mais qui sont quand même des activités de souveraineté, les avions de combat, les systèmes de défense.
Cédric Gauthier, quand on est un grand équipementier de l'aéronautique civile, on jette un petit coup d'œil sur ce qui se passe dans le domaine militaire, où c'est vraiment autre chose, un autre monde, et vous n'y songez point.
On travaille effectivement aussi, par exemple pour Dassault, on a des activités qui sont plus marginales, les volumes de production ne sont absolument pas les mêmes. Je disais tout à l'heure qu'on sort toutes les 4 heures un fuselage d'avion de la famille 320, donc, alors que bon, la Rafale est sur une cadence à peu près de 1 par mois. Donc, de manière très pragmatique, en tant qu'équipementier, je suis plus intéressé par le marché civil que par le marché militaire.
En tout cas, votre argumentation est très crédible, en tout cas, on comprend très bien. Alors, dans un contexte... Alors, il y a tout de même un exemple où les Européens ont voulu construire un avion en commun, c'est la 400M. Et alors, Yann Kochenek, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est compliqué, la 400M. Très bel avion, en tout cas sur le parking. Très bel avion quand il est en démonstration au Bourget. Mais avion un peu compliqué à mettre en œuvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la 400M, qui devait être un peu la quintessence de l'aéronautique militaire européenne, sans être une catastrophe, n'exagérons pas, connaît bien des difficultés? Il est arrivé très tard, problème de livraison. Il est surtout beaucoup plus cher qu'on l'imaginait, deux fois plus cher et des délais de livraison deux, trois fois plus importants.
Non, l'avion, il est là, il vole. Il est clair qu'il est en opération et il rend service dans le Sahel aux forces françaises qui sont engagées. Mais bien, c'est clair qu'il a connu et connaît encore des problèmes de mise en route et surtout des problèmes de répondre aux demandes de ses clients, parce que c'était ça le problème.
Mais est-ce que la 400M, c'est pas la quintessence des Européens, ce que vous expliquiez? Nous, un état-major voulait cette spécificité, un autre en voulait une autre. En gros, c'est un mouton à cinq pattes avec des ailes. Et évidemment, c'est pas facile à faire voler.
Oui, bah, c'est chaque pays partenaire, c'est-à-dire qui a mis au pot, avait des besoins spécifiques. Et voilà, donc on en revient un peu, parce qu'on évoquait le sujet pour le futur système de combat aérien, c'est-à-dire que il faut, pour éviter tous ces problèmes sur les différentes versions de la 400M, les différentes capacités tactiques et stratégiques de la 400M, que tout le monde soit d'accord sur un besoin opérationnel commun. Et puis après, on décide qui sera maître d'œuvre. Voilà. Donc c'est ça le problème, c'est la cohérence.
Alors dans un contexte, Pascal Pincemin, dans un contexte géopolitique qui change, on entend Angela Merkel ou Emmanuel Macron dire leur volonté de développer, de relancer une Europe de la défense, ce qui n'empêche pas la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, le Danemark d'avoir commandé ces fameux F-35 américains fabriqués par Lockheed à un prix tout à fait astronomique, semble-t-il, tandis que la Belgique, la Suisse et même l'Allemagne y songe. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire quand j'explique tout ça, Pascal Pincemin?
Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un gros boulot à faire pour non pas peut-être avoir une défense européenne, parce que ça, on est très loin, mais une Europe de la défense au moins, avec, comme toujours en matière européenne, moi je trouve que une conception de noyau dur d'un nombre limité de pays autour de l'axe franco-allemand est le support le plus efficace pour faire quelque chose de crédible. Donc j'espère que Emmanuel Macron, Angela Merkel ont ça en tête et vont pouvoir avancer concrètement. Il faut rappeler aujourd'hui qu'on a une Europe monétaire, on n'a toujours pas une Europe économique. Alors maintenant, il faut songer à une Europe de la défense. Il faut peut-être s'y mettre tout de suite, effectivement, mais de façon rationnelle.
Quand, par exemple, l'Allemagne s'intéresse au F-35 américain, donc avion de combat remarquable, hein, furtif, avec plein de qualités, mais très cher, il ne s'intéresse pas aux Rafales de Dassault, voire même à l'Eurofighter dont ils sont...
C'est terrible de dire ça, mais je dirais que... Le F-35, le Rafale, l'Eurofighter, c'est presque déjà le passé. Alors je dis, c'est un peu paradoxal de dire ça, puisque c'est des avions qui vont encore voler
30 ans.
Et qui seront en opération pendant 30 ans, sinon plus, puisqu'on peut. Les avionneurs savent toujours, avec les retours d'expérience clients, les retours opérationnels des forces, savent toujours apporter des améliorations en permanence à leurs appareils. Mais c'est des avions qui sont. Non, il s'agit de préparer l'avenir, c'est l'après, c'est-à-dire dans 20-30 ans, que faisons-nous? C'est-à-dire
Pascal Pincemin.
Et l'après, c'est peut-être pas le fait de fabriquer les superstructures d'avions. L'après, c'est certainement trouver un leadership européen dans la construction de plateformes d'interopérabilité des moyens d'armes, des systèmes d'armes, au travers de ces approches digitales qui commencent à se développer. Et là, il y aura encore une fois un combat de normes entre les États-Unis et l'Europe. Et on peut souhaiter que l'Europe soit plus robuste et compacte face à ce nouveau champ de concurrence.
Est-ce que vous sentez néanmoins, après des industriels, les uns les autres que vous avez rencontrés, une espèce de prise de conscience que, compte tenu du contexte géopolitique, une Russie toujours menaçante et une Amérique qui ne sait pas trop où aller et qui ne sait pas trop ce qu'elle veut, ça peut avoir un impact sur l'Europe de la défense. Bien évidemment, on est dans des temps très longs toujours, mais est-ce que c'est des conversations, des mots que vous avez entendus dans les allées de ce salon du Bourget et dans les fameux chalets.
Je crois que dans le domaine de la défense, les industriels peuvent certes beaucoup, mais sans le support des États et une stratégie claire d'État, il ne se passera pas grand-chose.
L'Europe consacre 5,5 milliards par an jusqu'en 2020 et peut-être un peu au-delà pour soutenir le monde aéronautique et spatial. C'est beaucoup, c'est dérisoire.
Oui, c'est le budget de la Commission européenne qui vient en complément des budgets des différents États contributeurs, par exemple à l'Agence spatiale européenne pour le spatial, et en complément des budgets nationaux que les différents pays investissent. Donc c'est quelque chose qui est loin d'être négligeable, en particulier pour le spatial, qui est dans ma partie, et qui est quelque chose qui peut encore augmenter pour des applications spatiales dans le domaine de la sécurité et de la défense des citoyens européens. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable et qui est en croissance.
D'un mot, qu'est-ce que peut apporter l'Europe, c'est rigolo.
On disait tout à l'heure que pour que l'Europe garde, je dirais, une suprématie dans certains domaines, l'investissement est absolument nécessaire. Les recherches avancées, recherches de technologies sont absolument nécessaires. C'est par ceci qu'on va garder nos positions. Donc les budgets nationaux qui sont très importants, pilotés par la DGAC ou les budgets européens, sont un élément clé des réussites. Et c'est du bon investissement puisque le retour, ce sont des centaines de milliers d'emplois en Europe, hautement qualifiés. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à la fois clé pour maintenir notre position et un réel investissement sur l'avenir économique de l'Europe.
Merci, c'est le mot de la fin. Merci à tous les cas d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Merci aux équipes d'Ariane Group qui nous ont accueillis extrêmement gentiment dans leur chalet. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Vous pouvez réécouter ce Carrefour de l'Europe sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone via RFI.fr ou les applis mobiles de RFI. Elles sont gratuites. On reste en contact avec Facebook et Twitter. Daniel Desescales, où que vous soyez, au Bourget, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.